France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nouvel épisode ce matin de notre série consacrée à la pensée de Simone de Beauvoir. Beauvoir se disait féministe socialiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Et cette idée a-t-elle évolué dans son parcours? Beauvoir a mis du temps à revendiquer le féminisme comme combat autonome, spécifique, par rapport à une autre lutte, celle en vue du socialisme au sens de Marx et de Engels, c'est-à-dire en vue de la fin du capitalisme et de la lutte de classe. Dans Le Deuxième Sexe, en 1949, elle pressent déjà, et elle l'écrit, que ce socialisme n'abolira pas de lui-même la domination des hommes sur les femmes. Et pourtant, elle n'assume pas encore dans ce livre de 49 l'autonomie du combat féministe. Elle refuse explicitement d'être rangée sous cette étiquette. Quelque chose semble hésiter dans sa pensée. Après 68, ça y est, Beauvoir accepte le qualificatif de féministe, la spécificité de cette lutte. Mais à chaque fois qu'elle est interrogée, elle dit quand même que la libération des femmes est liée à l'avènement d'un véritable socialisme. Tout cela, comme souvent les en même temps, n'est pas immédiatement clair. Si le socialisme n'émancipera pas les femmes, pourquoi est-il quand même un horizon nécessaire pour les libérer? Si les deux projets ont des liens, comment sont-ils articulés exactement selon Beauvoir? Et quelle est cette autonomie au moins partielle qu'elle repère malgré tout dans la lutte féministe? Bonjour Mimose André. Vous êtes docteur en philosophie de l'Université Paris 8. Vous apprêtez à publier dans quelques semaines aux éditions L'Harmattan un livre issu de votre travail de thèse. Ce livre doit s'intituler Simone de Beauvoir, philosophie politique en contexte. Et bonjour Michel Caille.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie au lycée, en tout cas vous l'étiez, et on vous doit plusieurs ouvrages, notamment au PUF, Simone de Beauvoir philosophe et Beauvoir et Sartre pour un matérialisme féministe. Alors pour commencer notre discussion, je voudrais vous faire écouter une interview choisie par l'équipe d'Avec Philosophie. C'est un propos, disons, de la Beauvoir de la maturité, puisqu'on est en 1975. C'est donc 26 ans après Le Deuxième Sexe et 11 ans avant sa mort. Elle répond aux questions de Jean-Louis Servan-Schreiber sur TF1. Dans une de ses réponses, Beauvoir dit d'abord ceci.
Toute l'histoire du communisme par rapport aux femmes, c'est une histoire assez compliquée, parce qu'il considérait que le problème des femmes était un problème secondaire, que la contradiction des sexes est une contradiction secondaire, à cause de la contradiction de classe, qui est, elle, une contradiction primaire. Mais dans l'ensemble, les problèmes de femmes sont pour eux absolument subordonnés aux problèmes de classe. Et je dois dire que moi-même, en 49, quand j'ai écrit Le Deuxième Sexe, j'étais un peu dupe de cela. Je croyais qu'il fallait surtout militer pour la révolution, puisque moi, je suis tout à fait de gauche, et par conséquent, je souhaite un changement complet du régime et le renversement du capitalisme. Mais je pensais qu'il suffisait de ça pour que la situation de la femme devienne l'égale de celle de l'homme. Et je me suis aperçu, je m'étais bien trompée, car ni en URSS, ni en Tchécoslovaquie, ni dans aucun pays socialiste, ni dans les partis, précisément pas dans le Parti communiste, ni dans les syndicats, ni même dans les mouvements gauchistes plus d'avant-garde d'aujourd'hui, le sort de la femme n'est le même que celui de l'homme. Et c'est ce qui m'a décidé à devenir ce que j'appellerais proprement féministe, et d'une manière assez militante. Être militante, c'est par exemple venir parler aujourd'hui du féminisme à toutes les femmes qui veulent bien m'écouter.
Alors, communisme ou socialisme au sens de Marx et d'Engels, je vous propose qu'on assimile, pour simplifier, ces deux notions. Et donc, on entend là, pour Beauvoir, que la lutte en vue de ce projet, donc en vue de la fin du capitalisme et de la lutte des classes, n'est pas par soi-même une lutte émancipatrice pour les femmes. Et d'ailleurs, elle dit que c'est pour ça qu'elle est devenue spécifiquement féministe. Et pourtant, juste après, dans sa réponse, elle dit ceci.
Eh bien, j'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales, en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Il n'est pas question, il n'est pas possible que le sort de la femme change profondément si la société, d'autre part, ne change pas profondément sur le plan de la lutte des classes. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais à étayer la lutte des femmes. Il faut qu'il y ait une lutte qui soit spécifiquement menée par les femmes. Et c'est pourquoi des mouvements qu'on tourne souvent en ridicule, comme le MLF, le mouvement de libération des femmes, me semble un mouvement absolument nécessaire dans la société d'aujourd'hui.
Alors, quand on n'est pas tout à fait au fait de la pensée de Beauvoir et des enjeux, on a quand même cette impression, Michel Caille, qu'elle a délié les deux projets. Ce n'est pas le socialisme ou le communisme au sens de Marx et d'Engels qui libérera les femmes. Et puis dans la deuxième partie de la réponse, elle les relie. Donc elle relie ce qu'elle a délié. Ce qui, je répète, pour les profanes, n'est pas particulièrement clair. Pour vous qui êtes spécialiste, est-ce clair?
Alors, clair, j'essaye de le rendre clair, oui. En fait, vous avez... parler d'évolution. Je crois que ça, c'est très important, au sens où, lorsque Beauvoir écrit le deuxième sexe, elle est très, très distante, voire indifférente à l'endroit du féminisme. Et pourtant, elle produit la plus puissante philosophie féministe.
Oui.
En se déclarant non féministe. Alors pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'elle produit et ce qui rend ce texte féministe, c'est qu'elle pose une base d'anaturalisme. Je dis plus antinaturalisme, je dis le a privatif, anaturalisme. Au sens où ce qu'elle déploie comme argumentation dans le deuxième sexe, c'est que la distinction nature-culture n'est pas une solution au problème. C'est le problème. C'est le problème central. Et elle veut dégager, justement, l'analyse qu'elle fait. Alors, quelquefois, elle dit cette expression qui est assez un peu ancienne, la condition de la femme, ça lui arrive de parler comme ça. Elle veut dégager, justement, l'analyse qu'elle fait des femmes de ce schéma nature-culture.
Mais, si je puis me permettre, c'est comme si elle supposait que le féminisme, au sens classique du mot qu'elle refuse alors, c'est du naturalisme. Ce serait renvoyer les femmes à une biologie. Donc, comme elle refuse ça, elle refuse l'étiquette. Mais bon.
Pas tout à fait. J'entends bien votre objection, mais en réalité, c'est qu'elle veut donner à la nature son statut de pure normativité. C'est-à-dire que. Ce n'est pas une notion rationnelle. Et par exemple, la fameuse phrase, vous voyez, on n'est pas femme, on le devient, suggère parfois, et elle est interprétée comme ça, et à mon avis à tort, elle suggère parfois que c'est un passage de la nature à la culture. Or, ce n'est pas du tout ça.
Mais c'est ce que fait la culture avec la nature. C'est-à-dire, c'est pas ça que vous voulez dire?
Non, parce que je pense que la notion de nature est pour moi, à annuler et à rejeter dans le champ des fictions. Et d'ailleurs, juste un dernier mot, parce que, vous voyez, quand on dit souvent, Beauvoir, elle va critiquer le biologisme.
Oui.
Alors qu'en réalité, elle critique le matérialisme historique, la psychanalyse et le biologisme. Pas la biologie,
oui,
le biologisme.
Pas que ça,
non, mais c'est ces trois discours-là qu'elle met en cause.
Alors j'entends ça, mais le problème là, c'est que j'ai l'impression de revenir à notre épisode d'hier. Notre question aujourd'hui, Mimoz André... Sachant que Beauvoir refuse de ramener les femmes à des déterminations biologiques, corporelles, naturelles, comme diraient d'autres, c'est de dire que la domination qui pèse sur elle est culturelle. On va le dire comme ça, j'entends vos précautions, mais bon, on ne peut pas refaire le débat sans arrêt. Et donc, elle envisagerait à un moment donné que si on avait un projet d'émancipation sociale et culturelle du type socialisme, c'est son époque, beaucoup de gens sont marxistes, si on abolit le capitalisme, c'est un souhait de pas mal d'intellectuels, dont elle, en tout cas un projet, elle s'inscrit dans ce contexte. La question est de savoir, ça c'est culturel aussi, c'est social, c'est une lutte politique et sociale, est-ce que ça corrigerait la domination culturelle, elle aussi, qui pèse sur les femmes. Et qu'en pense-t-elle Mimose André au moment du deuxième sexe. Après, on verra.
Ok. C'est comme l'a si bien dit Michel Kahl, en ce qui concerne le deuxième sexe, Simone de Beauvoir confie les détails dans tout compte fait. Elle explique que l'idée d'écrire le deuxième sexe lui fut suggérée par Sartre. Donc déjà,
par Sartre.
Par Sartre. Donc, ça montre déjà que, comme elle le dit, elle n'était pas féministe.
Elle le dit clairement dans le livre.
Ensuite,
elle n'aime pas cette étiquette.
Tandis que le deuxième sexe, parce qu'on est en 1949, dans le deuxième sexe, on va retrouver un discours qui est profond. Dans le sens où Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, va faire appel, non seulement il s'agit d'une synthèse de tout ce qui a été produit sur les femmes par les hommes et les femmes également, mais il y aura également un discours, si j'ose l'hyperbole dont utilise Julia Kristeva dans Simone de Beauvoir présente, elle dit il s'agit d'une révolution anthropologique.
Oui.
Je peux parler de révolution anthropologique dans le sens où, dans le deuxième sexe, bon, elle dit, quand elle écrivait le deuxième sexe, elle n'était pas encore féministe, mais ce deuxième sexe, on retrouve un discours où elle va faire une synthèse de tout ce qui a été dit.
Oui.
Et il y a aussi le discours universalisme, dans le sens où elle va intégrer différentes savoirs à l'époque. Parce que, certes, avant Simone de Beauvoir, il existait des discours contre la domination des hommes sur les femmes. Mais le discours de Simone de Beauvoir est un discours beaucoup plus profond. C'est surtout à ce moment-là, et heureusement, Simone de Beauvoir avait vu l'importance de la transdisciplinarité. Parce qu'à son époque, ce n'est pas évident qu'elle fasse appel à la psychanalyse, à la biologie, la sociologie, Lévi-Strauss, Michel Lewis, et même la sexologie. Donc, on voit qu'il y a... c'est l'intégration de différents savoirs. Même le matérialisme historique également, même si après, elle va avoir des points de désaccord. Et moi, j'ose parler également de révolution théorique,
oui.
Dans le sens où, dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir aborde des questions qui, à l'époque, étaient taboues. Par exemple, la question de la sexualité des femmes, la question explosive de l'avortement, des questions qui fâchent, comme par exemple la prostitution. Donc, on voit bien dans le deuxième sexe, c'était pas seulement d'établir les faits, mais c'était surtout d'interroger les mythes relatifs aux femmes.
Oui, mythes colportés également par les femmes.
Oui, oui.
C'est ce qu'elle appelle la complicité. Et donc, je prolonge en vous interrogeant encore, Mimose André. Elle refuse l'étiquette de féministe. Plus tard, dans une série d'entretiens qu'elle donnera une personne qui s'appelle Schwarzer, j'avoue, Alice Schwarzer. C'est un texte qui paraîtra autour de 1980. Elle dira, si je refusais, c'est que je pensais que d'un point de vue politique, l'avènement du socialisme, au sens de Marx et d'Engels, donc du communisme, la fin de la lutte des classes, permettrait la libération des femmes.
Tout à fait. Parce que dans ce texte, entretien avec Alice Schwarzer, Simone de Beauvoir est claire là-dessus. Elle a dit, oui, le système écrase les hommes et les femmes. Le système écrase les hommes et les femmes et incite ceux-là à opprimer celles-ci.
Oui.
Mais les hommes... reprend ce système. Les hommes l'intériorisent,
oui.
Et ils vont garder, ils garderont leurs prétentions, les mêmes prétentions et les mêmes préjugés, même lorsque le système change.
Est-ce que vous voyez bien que là, il y a une contradiction ? C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle croit,
oui.
Qu'elle croyait, elle
oui.
dit 30 ans
oui,
plus
oui,
tard,
oui,
je
oui.
croyais encore.
Oui, oui, elle croyait.
À Marx et Engels, je pensais que, alors, les prolétaires d'aujourd'hui ont peut-être encore des fonctionnements bourgeois, mais le jour où il n'y aura plus de capitalisme de lutte des classes, les hommes considéreront les femmes, le problème des femmes et de leur domination est quand même lié au capitalisme. Elle dit tout ça a posteriori, mais dans le deuxième sexe. Elle avait pourtant déjà dit que ça n'allait pas marcher. Elle avait pourtant déjà dit que les théories d'Engels, selon lesquelles c'est quand même le capitalisme qui a fabriqué la famille dominatrice envers les femmes, tout ça devrait... Elle avait déjà dit qu'ils n'avaient pas compris, Marx et Engels, le problème. Je vous propose de lire, d'entendre plus exactement, lu par Anna Fulpin de notre équipe, ce passage du deuxième sexe, où elle est explicite sur le fait que Engels, et derrière c'est aussi Marx qui est touché, se sont trompés.
Bien que la synthèse ébauchée par Engels marque un progrès sur celle que nous avons examinée antérieurement, elle nous déçoit. Les problèmes les plus importants sont escamotés. Le pivot de toute l'histoire, c'est le passage du régime communautaire à la propriété privée. On ne nous indique absolument pas comment il a pu s'effectuer. Engels avoue même que nous n'en savons rien jusqu'à présent. Non seulement il en ignore le détail historique, mais il n'en suggère aucune interprétation. De même, il n'est pas clair que la propriété privée ait fatalement entraîné l'asservissement de la femme. Le matérialisme historique prend pour accordé des faits qu'il faudrait expliquer. Il pose, sans le discuter, le lien d'intérêt qui rattache l'homme à la propriété. Mais où cet intérêt, source des institutions sociales, a-t-il lui-même sa source ? Ainsi, l'exposé de Engels demeure-t-il superficiel, et les vérités qu'il découvre apparaissent comme contingentes ? C'est qu'il est impossible de les approfondir sans déborder le matérialisme historique. Il ne saurait fournir de solution aux problèmes que nous avons indiqués, parce que ceux-ci intéressent l'homme tout entier, et non cette abstraction qu'est l'homo economicus.
Bien, alors là je reviens au problème qui, me semble-t-il, est au cœur de notre épisode aujourd'hui. En 1949, dans le deuxième sexe, on entend bien que Beauvoir critique Marx et Engels, qui pensaient que la domination des femmes s'éteindrait avec la fin du capitalisme. Elle dit mais non, il n'y a aucune raison que les hommes changent de vision des femmes, et même les femmes pourraient rester complices de la vision masculine. Et pourtant, a posteriori, elle dira qu'à ce moment-là, elle y croyait encore au socialisme. Il y a quelque chose, la question que je vous pose, Michel Caille, c'est, elle a l'air mal à l'aise, Beauvoir. Elle a l'air mal à l'aise avec ce problème qu'elle a elle-même soulevé.
Absolument, mais parce que il faut bien revenir dans les années 70-80, c'est que la charge critique, elle est pleinement assumée par le marxisme. Et évidemment, engager au nom du féminisme une telle critique, c'est prendre le risque de sortir de cet ensemble critique. Et c'est ça l'hésitation. Mais moi qui suis aussi, j'ai connu ces hésitations-là. Vous voyez ? Mais en fait, ce qui est très important, c'est de montrer que la façon dont le marxisme pense l'histoire, cette façon, elle revient à masquer complètement la situation des femmes. Et ça, vous voyez, on le voit très bien dans le deuxième sexe, c'est un moment, parlant de la dialectique, puisque c'est le nœud central de cette critique marxiste, parlant de la dialectique, Simone de Beauvoir écrit « Oui, mais en fait, là où il y a l'esclave, en fait, certainement, ce serait à la femme d'occuper cette place et à ce moment-là, ça fonctionnerait mieux. » En réalité, justement, le problème, c'est que la femme, elle n'est pas invitée, si je puis dire, entre guillemets, dans la marche dialectique. Parce qu'en réalité, la domination des femmes par les hommes, elle est admise, acceptée, et donc c'est à partir du masquage de cette domination que la dialectique peut se développer.
Et donc même si on arrive au bout du processus dialectique marxiste, c'est-à-dire fin du capitalisme, société sans classe, il n'y a aucune raison, Mimoz André, comme elle le disait déjà dans le deuxième sexe, mais semble-t-il elle n'assumait pas pleinement les conséquences de cette analyse encore, il n'y a aucune raison de penser que ce socialisme advenu libérera les femmes d'aucune façon.
D'aucune façon, parce que... mais moi, je vois cet aspect sous un autre angle, dans le sens où Simone de Beauvoir ne reste pas la même. C'est comme pour dire, sa pensée n'a jamais été une pensée figée. Donc, dans le deuxième sexe, on voit que Simone de Beauvoir, elle est surtout existentialiste, dans le sens où elle part de la conscience. Là, elle fait surtout appel à des auteurs comme Husserl, Heidegger et Hegel. Et on va voir dans les mandarins, par exemple, dès qu'on commence dans les années 1955, 1960, 1972, oui. avec tout qu'on te fait, c'est une autre Simone de Beauvoir.
Parce elle que est là, plus marxiste
oui, en vérité. Oui, c'est ça. Oui,
elle se reconstruit l'idée qu'elle était très marxiste encore dans le deuxième sexe. Mais en fait, quand on lit le texte, on voit que c'est pas vrai.
Tout à fait.
C'est plus tard qu'elle est devenue
Tout à fait. Marxiste. Plus tard, elle est devenue marxiste. Et là, dès qu'elle commence à se rapprocher de Marx, elle est marxiste. Elle va utiliser également des notions marxistes. C'est pourquoi dans le deuxième sexe, toujours en ce qui concerne le deuxième sexe, elle, dans tout qu'on te fait avec Alice Schweitzer également, elle souligne cela pour dire, si j'avais à écrire le deuxième sexe aujourd'hui, je donnerais des bases matérialistes et non idéalistes à l'opposition du même et de l'autre.
Mais alors, quand elle
ne l'a pas fait.
Non, mais quand elle le dit, par exemple, dans la fin des années 60, avant 68.
Oui, elle le dit dans Tout qu'on te fait.
Oui, et tout même, fait, attends, qui... nous, on a des archives.
Oui, sonores, Tout qu'on te fait, qui est publié en 1970. Et également, elle revient là-dessus, dans la force. Elle l'avait déjà dit dans La force des choses. Et elle reprend ce même argument dans Tout qu'on te fait. Et lorsqu'elle parle également avec Alice Schweitzer dans l'entretien.
Alice Schweitzer, c'est plus tard. Hein, c'est...
Oui, en 1984 déjà, ouais. ça c'est très tard. Mais pour montrer que ce n'est pas cette même Simone de Beauvoir. Il y a toute une évolution.
Oui, mais il y a quand même tout le temps des problèmes, si je puis me permettre, tout au long de l'évolution. Parce que quand elle devient marxiste, reconstruisant faussement a posteriori un pseudo-marxiste qui aurait été là dans le deuxième sexe, alors que vous venez clairement de dire qu'il n'était pas là. Quand elle devient marxiste, fin des années, disons années 50, début des années 60, ça pose un problème, parce que qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là de ses propres préventions à l'égard de tout ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire le fait qu'elle a toujours dit qu'avec Marx et Engels, désolé, mais on ne libérera pas les femmes. Qu'est-ce qu'elle fait de la charge critique qui était là dans son œuvre depuis le début à l'égard du projet socialiste qui, pour elle, est nécessairement soit insuffisant, soit mensonger sur le plan féministe?
Oui, parce que dans mon livre également, j'ai mentionné cela en disant que certes, Simone de Beauvoir devient marxiste, mais il s'agit de marxiste sui generis, dans le sens où Simone de Beauvoir va utiliser la pensée de Marx et de Engels également en ce qui concerne le matérialisme historique. Mais c'est vrai, c'est pas le marxisme dans le sens général du terme, parce que c'est vrai, on sent cela chez Simone de Beauvoir, où à chaque fois, certes, elle soulève des questions auxquelles elle ne trouve pas encore de réponse, et après, elle revient sur ces mêmes questions. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Alors, on va quand même écouter une archive de 1967 sur Radio-Canada, où Beauvoir a franchement une note marxiste. C'est comme si le problème fondamental des femmes et de leur domination, c'était un problème de la conscience bourgeoise, quoi. Et on se dit, à ce moment-là, voilà, il suffira de sortir de ça, comme Marx et Engels y invitaient, pour que ça aille mieux. On l'écoute.
En ce moment, il y a en France un mouvement que j'appellerais un mouvement de régression, parce qu'il vise, au contraire, à enfermer de plus en plus la femme au foyer, dans sa famille, auprès de ses enfants, et à lui refuser les possibilités de faire une carrière de travailleuse équivalente à celle des hommes.
Mais comment expliquez-vous cette régression actuelle dont vous parlez ?
Ça, je l'explique pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans une démocratie bourgeoise. Mais des démocraties bourgeoises sont en vérité des pays qui sont gouvernés par une classe dominante qui est la bourgeoisie. Et cette classe dominante qui est la bourgeoisie, eh bien, à ce moment-là, elle veut garder le pouvoir. Et une des manières dont elle va garder le pouvoir, c'est précisément de garder la femme au foyer. Ça pour des tas de raisons. Parce que la classe bourgeoise a intérêt au statu quo, donc elle a intérêt à ce que les gens soient dépolitisés. Empêcher les femmes de travailler, les empêcher de se mêler à la vie publique, c'est avoir tout un public votant et à la fois dépolitisé, qui par conséquent va être là à voter pour le pouvoir personnel, pour De Gaulle, pour l'apolitisme. Et en même temps, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise l'homme. Ça c'est très important, que toujours l'émancipation de la femme a été liée à l'émancipation sociale.
Bien, alors là, Michel Caille, Beauvoir semble dire le problème, c'est la conscience bourgeoise, qui sans doute, et ça c'est du marxisme, s'applique à tout le monde, même aux prolétaires, une espèce de vision de la femme au foyer, proprement bourgeoise. Et là, on se dit, c'est du pur et simple marxisme. Quand on aura aboli le système des classes, il n'y aura plus de problème pour les femmes.
Non, absolument. Mais encore une fois, c'est la difficulté. Mais le pas, en fait, est franchi à partir de mai 68, en réalité.
Et à ce moment-là... un an avant.
Oui, mais là, ça va être décisif. Et je pense notamment... l'influence aussi de Sylvie Le Bon de Beauvoir va jouer.
Vous pouvez préciser qui est Sylvie Le Bon ?
C'est l'héritière choisie par Beauvoir et donc qui a une connaissance de l'œuvre de Beauvoir vraiment de l'intérieur et qui fait un travail d'édition remarquable.
On la recevra demain.
Oui, bravo.
Bon, alors, mais avant 68, vous dites qu'elle est dans la contradiction. C'est-à-dire que, elle critique Marx et Engels, mais elle n'assume pas un féminisme autonome. Un coup, elle revient à Marx et Engels, là, dans les dernières archives, et on se demande ce qu'elle fait de ses anciennes critiques.
Mais en fait, philosophiquement, dès le deuxième siècle, elle est en rupture avec le marxisme, selon moi. Parce que, vous voyez, il y a la première partie, destin. Qui est-ce qui décrit le destin, donc, des femmes ? C'est le matérialisme historique, la psychanalyse, le biologisme. Et deuxième partie, l'histoire. Et là, elle commence en disant, c'est ça l'enjeu. Elle dit, ce monde a toujours appartenu aux hommes. Autrement dit, là, il y a un objet où il serait facile de dire, ah ben oui, parce que c'est lié à la nature. C'est lié à la nature des femmes. Voyez, et à la nature des hommes. Or, précisément, ce que fait Beauvoir dans cette partie-là, avec quelquefois des difficultés, des maladresses, etc. Mais c'est de dire, non, là, il y a une historicité. En dépit de cette longue durée de la domination masculine sur les femmes, il faut penser ça comme un objet historique. Et ça, le marxisme ne donne pas les moyens. C'est pourquoi ma thèse, c'est qu'elle va construire un matérialisme.
Mais, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Pour des gens qui ne sont pas philosophes, alors, franchement, ce n'est pas clair. Qu'est-ce que c'est l'idéalisme et le matérialisme d'un point de vue politique ? Comment vous l'entendez ?
D'un point de vue politique, oui, c'est très clair, justement. C'est ce qu'on oublie plus souvent, c'est que le matérialisme, dès la Grèce, c'est une philosophie de la liberté.
De la libération par rapport à certaines contraintes.
Absolument. Et le problème, c'est que le marxisme... tel qu'il devient idéologie officielle, vous voyez, le marxisme, idéologie officielle du mouvement ouvrier. Bon, eh bien, oublie évidemment complètement ce thème de la liberté.
Attendez, je pense que il faudrait peut-être, pour nos auditeurs, enfin là on est en train d'avoir un débat assez technique, peut-être, est-ce que vous seriez d'accord, si je disais les choses peut-être un peu trop simplement, d'un point de vue marxiste, c'est tout ce qui concerne l'évolution du système de production. C'est ça la matérialité, et c'est ça qui va libérer les gens. Alors que la position idéaliste considère que ce n'est pas des problèmes matériels de production économique, ce sont des problèmes de ce qu'ils ont dans la tête. Et on lutte au niveau des idées. Finalement, Beauvoir, elle était, Mimose André, idéaliste, et critiquant d'ailleurs fermement Marx et Engels dans le deuxième sexe. Elle devient marxiste, mais du coup on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait de sa critique antérieure ? Et qu'est-ce qui se passe ? En 68, elle est quoi, Beauvoir ? Elle pense que c'est par l'économique et ses évolutions révolutionnaires que ça va changer ? Pas seulement. Est-elle encore un peu idéaliste ? Elle pense qu'il y a un travail spécifique à faire en termes d'idées sur ce que les gens ont dans la tête. Comment elle est au seuil de 68, Beauvoir ?
Si je reviens toujours en ce qui concerne le retour qu'elle a fait en ce qui concerne le deuxième sexe, quand elle disait si elle devait écrire le deuxième sexe aujourd'hui. Elle continue pour dire que en ce qui concerne l'opposition et le rejet de l'autre, là, elle donnerait non pas, elle n'allait pas partir sur une base de l'antagonisme des consciences, mais de préférence concept économique de la rareté.
De la rareté.
Oui.
Alors là, là, je n'y comprends rien, donc je voudrais que vous m'expliquiez. Donc Sartre, parce que en plus c'est un peu embêtant, on passe notre temps à libérer Beauvoir de Sartre, qui a une vraie, elle a une vraie autonomie philosophique par rapport à lui, et boum, on se retrouve avec une espèce d'idée de la rareté qui est alors là, pour le coup, une vraie dette envers Sartre. Je ne comprends ni chez Sartre ni chez Beauvoir, donc je suis ravie que vous soyez là.
Oui, mais
expliquez-moi.
Mais en ce qui concerne le concept de rareté, et pourtant c'est un concept qui est propre à Marx. Donc, c'est au moment où, parce que le concept de rareté traduit une évolution entre Sartre et Simone de Beauvoir. Parce que quand on prend la pensée de Simone de Beauvoir dans son ensemble, on peut distinguer deux points de départ, comme je venais tout juste de le dire au début. Un point de départ où elle commence avec la conscience, là elle est existentialiste.
Et idéaliste, dira-t-on ?
Oui, dans un sens, parce que
au sens
là,
technique,
oui, oui,
philosophique
ce sont des
mot.
Sujets, c'est ouais. Relations entre des sujets entre eux. C'est la conscience. Donc ici, c'est le premier point de départ. Dans la deuxième étape de sa vie, on va se rendre compte de sa pensée, on va se rendre compte qu'elle va, là, c'est là, elle commence à se rapprocher de Marx, elle est marxiste, elle va utiliser des concepts économiques, des concepts marxistes. Par exemple, on va parler de la circulation, la production, la consommation, la rareté apparaît.
L'appareil de production. Qui fabrique tout à fait. Des choses dans la conscience,
et là,
mais qui viennent de la matérialité
tout à fait,
économique.
Tout à fait. Et c'est là on va parler de la rareté. Rareté, il y a deux sens.
Et qu'est-ce que ça veut dire là ?
Pour bien comprendre ce concept de rareté dont Simone de Beauvoir parle. Parce qu'elle a dit, si elle devait écrire le deuxième sexe, elle allait partir sur des bases du concept économique de la rareté. Donc c'est important de comprendre ce
Alors,
concept.
Alors expliquez-nous.
Donc, pour bien comprendre ce concept, il faut faire la différence entre les deux sens. Il y a un premier sens, le sens dans le langage ordinaire, on peut définir la rareté comme l'état de ce qui est rare. Voilà, ça c'est simple. De ce qui est rare, il y a manque, la production n'est pas suffisante. Alors que, en tant que concept économique, rareté, c'est le phénomène de la production matérielle, dans le sens où il y a une médiation entre le produit offert et l'accessibilité à ce produit, d'avoir accès à ce produit. Et cette médiation, c'est l'argent. Donc, du coup,
il y a... Donc, c'est cher. Ce qui est rare est cher.
Tout à fait. C'est même pas... C'est cher. C'est dans le sens où il y a une production suffisante et pourtant, il y a rareté. Parce qu'il y a une médiation entre le produit et avoir accès à ce produit.
Et alors, hein, j'ai envie de vous dire, donc, quel est le problème, l'enjeu et en quoi cette affaire concerne le traitement des femmes par les hommes.
Tout à fait, parce que à ce moment-là, Simone de Beauvoir va se rendre compte que l'émancipation de la femme, ou bien je pourrais dire être féministe, l'émancipation de la femme passe par l'intégration au monde du travail.
Parce que là, j'essaie de comprendre. Est-ce que vous voulez dire que comme il y a de la rareté, il y a un appareil de production qui gère cette rareté et qui propose des biens rares et donc chers, mais que si on en produisait plus, on ferait travailler tout le monde, les prix seraient plus bas, les femmes travailleraient aussi. Au fond, le système économique aime bien la rareté pour garder les biens chers et pour laisser les dames au foyer, pour qu'elles ne viennent pas dans une production de masse majeure apporter leur force de travail. Donc il y a une organisation bourgeoise, pour parler comme l'époque, de la femme au foyer.
Oui, parce que même en production, la production elle est suffisante et pourtant il y a rareté, parce qu'il y a une médiation entre le produit offert et l'accessibilité à ce produit.
Comment donc, est-ce qu'on peut dire des choses pareilles alors qu'à l'époque on est en plein capitalisme de masse, les biens deviennent de moins en moins chers, il y a une production de masse. C'est très bizarre que Sartre et Beauvoir gardent cette histoire de la rareté alors qu'on n'a jamais été autant historiquement dans un moment qui a rendu les biens plus accessibles.
Si vous voulez, par rapport à Sartre, c'est un thème qu'il développe dans la critique de la raison dialectique. En fait, c'est un coin enfoncé un peu dans la dialectique habituelle du marxisme qui promet la libération de l'humanité elle-même au nom d'une production massive et globale de biens. Vous voyez ? C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que Sartre veut mettre un peu en panne, c'est ce lien facile entre développement des forces de production et rapports sociaux de production. Parce que c'est ça la dialectique marxiste.
Et est-ce que si on faisait la révolution, pour parler comme Marx, Engels, Sartre et Beauvoir, tout ça changerait? Les dames ne seraient plus au foyer, ou plus exactement, comme les messieurs, elles feraient ce qu'elles veulent dans un monde... Je rappelle néanmoins que jamais Marx n'a décrit en détail la société ultime avec la fin des classes. Mais on suppose que le travail n'est plus contraint, que chacun peut faire ce qu'il veut, qu'il n'y a pas de pauvreté. Enfin, il faut supposer quand même pas mal de choses. Et il donne là-dedans, à ce moment-là, Sartre et Beauvoir pensent que ça va marcher. Et là, il y aura du respect des femmes.
Mais encore une fois, avec 68, chez Beauvoir, il y a vraiment une rupture. C'est-à-dire que le deuxième sexe, c'est un texte féministe, philosophiquement parlant.
Oui.
Et ce que 68 va permettre, c'est que Beauvoir va assumer politiquement la philosophie féministe qu'elle a développée dans le deuxième sexe. C'est ça l'enjeu.
Oui. Alors je précise à nos auditeurs que nous sommes dans une série sur Simone de Beauvoir. Nous parlons de son œuvre en général. Et avec Mimoz André et Michel Caille ce matin, nous évoquons le fait que son féminisme est souvent qualifié, et par elle-même à un certain moment de sa vie, une évolution de féministe socialiste. Nous essayons de comprendre la tension entre ces deux adjectifs. Alors effectivement, après 68, il devient plus simple de rappeler que les bourgeois ont leur bourgeoise à la maison, mais les prolétaires ont aussi encore leur prolétaire à la maison. Autrement dit, la femme est la dominée tant des bourgeois que des prolétaires. Elle est la super prolétaire. Et que, évidemment, ça pose une question. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une révolution, fin de la lutte des classes? Est-ce que vraiment la femme cesserait d'être dominée? Des doutes sont exprimés. Je voudrais vous faire entendre une féministe qui deviendra une figure importante de ce qu'on appelle le féminisme matérialiste. On va préciser, Christine Delphi. En 2019, dans un épisode d'Avoix Nues sur France Culture, elle est revenue sur un geste militant qu'elle et d'autres avaient réalisé en 1970 pour montrer que, plus inconnu encore que le soldat inconnu, il y avait la femme du soldat inconnu.
Je ne sais pas comment l'idée nous en est venue. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est la première personne qui a parlé de ça, mais en tous les cas, on l'a fait, notre petite marche avec les banderoles et puis la gerbe que je portais, moi. D'ailleurs, il y a une photo où on voit un flic de l'autre côté de la gerbe, et moi, bêtement, je pensais qu'il voulait m'aider. Mais non, il voulait pas m'aider, il m'attirait et il attirait le reste du groupe vers un endroit que peu de gens connaissent, qui est la jambe gauche de l'Arc de Triomphe, quand vous regardez depuis les Champs-Élysées. Et dans cette jambe-là, il y a un commissariat. Il nous poussait assez brutalement. Et il y avait un commissaire, là, qui nous a dit « Vous n'avez pas honte ?» Et ça m'a marqué aussi, parce que, bon, notre seule présence rendait impur ce lieu sacré. Il avait fait conduire à peu près 3 ou 4 cars grillagés. Et puis quand ils se sont aperçus qu'on n'était que 9, ils nous ont mis les 9 dans une de ces voitures. Et nous, on était absolument déchaînés. D'abord, ils ont fait pimpon avec leurs sirènes. Puis après, ils se sont rendus compte qu'on n'était pas des dangereux révolutionnaires. Et ils ont arrêté. Alors nous, on parlait fenêtres, on criait pimpon, parce qu'on était vexés qu'ils arrêtent leurs sirènes. Après, ils nous ont emmenés dans un commissariat. Et dans ce commissariat, on disait absolument n'importe quoi sur nos identités. Et on a eu la chance que, du coup, la presse nationale, en particulier l'Aurore, fasse son titre sur nous. Ça nous a permis de rencontrer d'autres femmes qui nous ont contactées grâce à ça.
On est en 1970 quand cette gerbe a été déposée devant le monument du soldat inconnu, mais pour la femme du soldat inconnu, Mimoz André. Ce que dit Christine Delphi, c'est que la femme n'intéresse pas, voire c'est transgressif de l'honorer pour tout le monde. Le soldat inconnu, ok, sa femme, c'est un problème. Et ça pose évidemment la question de savoir si même un jour où il n'y aura plus de lutte de classe, où il y aura finalement une égalité parfaite de tout le monde, socialisme au sens de Marx et d'Engels, il n'y aura pas, là encore, un mépris pour la femme de tous ces gens-là.
Tout à fait. Tout à fait. Parce que si je... Si je reprends ce que Simone de Beauvoir disait toujours dans Tout compte fait, elle affirme que la preuve est faite que le socialisme, parce qu'elle devient critique également, c'est pas en ce qui concerne le matérialisme historique, mais même du socialisme en lui-même. Et après, elle deviendra critique également de la gauche, parce qu'elle est toujours critique vis-à-vis de tout ce... Elle est, comment ? Elle est très prudente. Elle dit... La preuve est faite que le socialisme, tel qu'il est réalisé aujourd'hui, n'a pas affranchi les femmes. Un socialiste...
A considérer que les socialismes réels ont quelque chose à voir avec l'idée marxienne et engelsienne du communisme et du socialisme. Il faut peut-être aussi se dire que si le modèle c'est Cuba et l'URSS, pauvre Marx.
Oui, dans un sens. Et puis, elle dit, peut-être un socialiste égalitaire y parviendrait-il ? Et... Pour l'instant, c'est une utopie. Tandis que la condition subie par les femmes, c'est une réalité. Donc c'est pourquoi je rejoins Michel Kahle tout à l'heure en ce qui concerne Simone de Beauvoir devient beaucoup plus radicale dans ses positions. Parce que là, elle va de préférence se rapprocher des mouvements propres aux femmes.
Oui, mais ces femmes-là ont-elles toutes abandonné complètement le marxisme ? Vous avez évoqué les féministes matérialistes, oui. Michel Kahle. Oui. Christine Delphi en fait partie. Vous dites l'un et l'autre que, en évoluant, en devenant finalement de plus en plus critique du projet marxiste, elle est devenue plus matérialiste, Beauvoir. Oui. Donc en fait, elle est restée marxiste.
Non.
Je suis désolée, je ne comprends pas bien. Je ne comprends
pardon.
Pas.
Mais,
ce que c'est que le féminisme matérialiste.
Bon, c'est Christine Delphi, évidemment, en France, est une représentante éminente de ce courant. Mais c'est, si vous voulez, pour aller vite. Le problème, c'est que le critère de classe, par rapport au virilisme, au masculinisme, au sexisme, peu importe comment on le nomme, ne fonctionne pas.
Oui, ça, on est d'accord.
C'est ce que vous disiez très justement quand vous disiez, bah oui, il n'y a pas que le bourgeois qui retient...
C'est pas moi qui le dis, c'est ce que pensent Beauvoir et tout un tas de féminismes à partir de 68.
Oui, mais ça, c'est très important. Parce que vous avez bien fait de passer la... Le discours de Christine Delphi, parce que c'est l'acte fondateur du MLF, finalement. C'est-à-dire que là, les femmes s'affirment effectivement comme autonomes.
Par rapport à toutes les autres luttes.
Absolument. Parce que...
Alors pourquoi se disent-elles encore matérialistes au sens marxiste ?
Non,
par exemple, expliquez-moi ce que c'est que la théorie. Alors qu'est-ce que c'est le féminisme ?
Il y a un matérialisme de la détermination. Ça... Vous voyez, qui consiste à dire les seules conditions matérielles qui fabriquent les individus qui y sont plongés. Et le matérialisme féministe, c'est un matérialisme de la relation. C'est-à-dire que ce qu'oublie l'analyse marxiste, c'est que, en fait, ce n'est pas la maîtrise de la nature qui assure la domination, c'est la maîtrise des relations. C'est-à-dire que celui qui est maître des relations est maître de la nature.
Qu'est-ce que ça veut dire être maître des relations ?
Maître des relations, ça veut dire exercer sa domination.
Ah.
Vous voyez ? Et à ce moment-là, c'est ce que fait le féminisme matérialiste, c'est de mettre en avant justement le mode de relation, le mode de société, le mode de relation.
Donc ça, par exemple, aujourd'hui, Christine Delphi, qui est une penseuse très importante
absolument.
Dans le monde féministe, qui a toujours dit sa dette majeure envers Beauvoir et qui revendique le qualificatif de matérialiste, elle assume une sorte d'héritage marxiste, mais très amendé.
Absolument,
c'est ça que vous dites ?
Absolument. Et ça se traduit... Par exemple, très concrètement, d'une manière politique, c'est que les féministes, alors, exigent des réunions non mixtes.
Oui.
Ça, c'est extrêmement important. Et parce que, pourquoi ? Quelle est l'expérience qu'elles font en 68 ? C'est que dans les organisations gauchistes, elles occupent exactement le même rôle que le bourgeois fait occuper à sa femme ou à ses filles, etc.
En d'autres termes, il n'y a que les mecs qui parlent.
Absolument. Et les femmes, elles, parce qu'à l'époque, ce n'est pas aussi technique, elles renéotent, elles préparent les sandwichs, etc., etc. Bon, et c'est cette expérience-là qui amène des femmes comme Christine Delphi à rompre, justement,
oui,
avec cette pratique gauchiste qui est directement nourrie du point de vue critique par le marxisme.
Mais du coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire que la voie alternative, ce serait justement de ne plus être marxiste, ce serait justement de ne plus être matérialiste au sens où on fait confiance au système de production et à ses évolutions pour faire bouger les idées, et d'être franchement dans une lutte au niveau de la conscience, au niveau de la réflexion sur ce qu'on a dans la tête, et ce qu'on appelle parfois l'idéalisme, les idées directement, pas seulement par la matérialité des choses. Pourquoi certaines féministes considèrent que non, qu'on ne va pas régresser vers ce que vous appeliez tout à l'heure, Mimmoz André, là, une espèce de lutte à l'intérieur de la conscience seule. Pourquoi revendiquer malgré tout une dimension matérialiste dans cette lutte?
On le fait parce que l'émancipation de la femme, on ne peut pas, la femme ne peut pas être émancipée si on ne détruit pas le socle sur lequel repose le système capitaliste. Parce qu'en même temps, on voit que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une condition immédiate, automatique, suffisante à l'émancipation de la femme.
Mais c'est nécessaire.
Mais c'est nécessaire.
Et pourquoi ?
Tout à fait.
Pourquoi ?
C'est nécessaire.
Mais pourquoi ? Puisqu'elle a tellement critiqué le fait que c'était insuffisant, voire sans effet, de passer au socialisme. Beauvoir a beaucoup dit ça. Ça ne servira à rien. On a vraiment l'impression. Pourquoi, à un moment, rappelle-t-elle quand même que si, c'est nécessaire ? Insuffisant, mais nécessaire.
Insuffisante, mais nécessaire, puisque c'est surtout après les analyses. Elle va développer des analyses avec le socialisme, comme je viens de le dire. Critique, quand on arrive à voir que ça n'a pas apporté tout à fait le résultat dont on attendait. Donc, il faut voir les choses sur d'autres angles.
D'accord. Donc, pourquoi vous... Quelle est votre réponse à vous, Michel Cahill? Pourquoi, malgré tout, le projet socialiste est nécessaire, même s'il est insuffisant?
Je ne dirais pas qu'il soit nécessaire.
C'est le terme de Beauvoir dans les
entretiens. Oui, mais je dirais que c'est quelque chose qui peut venir en plus. Mais vous voyez, moi, je pense que l'évolution de Beauvoir, elle est très bien décrite. Il y a Hartmann qui, à propos de marxisme et féminisme, écrit un article très important qui s'appelle « Un mariage malheureux ». Et je pense que Beauvoir, elle va aboutir à un divorce nécessaire.
Et pourtant, dans ses entretiens avec Beauvoir, avec Alice Schwarzer de 1983 et 84, elle dit, je cite, le socialisme n'est pas suffisant pour assurer l'égalité des sexes, il est nécessaire. Elle ajoute, il y a un slogan que j'ai lu en Italie que j'ai trouvé très juste, pas de révolution sans émancipation de la femme, pas d'émancipation de la femme sans révolution. Vous avez parfaitement le droit de considérer qu'un auteur ne dit pas toujours exactement lui-même ce qui se trouve dans son œuvre, bien sûr, mais j'ai l'impression que vous ne pensez pas que ce propos soit si beauvoirien que cela.
Non, et je pourrais, est-ce que j'ai le temps de citer?
Mais je vous en prie.
Et c'est dans tout compte fait. C'est un petit peu long, ça ne fait rien. Elle écrit, le deuxième sexe peut être utile à des militantes, mais ce n'est pas un livre militant. Bon, je pensais que l'évolution de la condition féminine évoluerait en même temps que la société. Maintenant, j'entends par féministe le fait de se battre pour des revendications proprement féminines. Bon, parallèlement à la lutte de classe, parallèlement, c'est intéressant, parce que les parallèles ne se rejoignent pas.
Vous voyez ? Ce sont des luttes qui ne se rejoignent pas. Donc il n'y a pas de lien, hein, c'est ça que vous dites.
Et oui, et surtout, il faut que les féministes affirment vraiment leur autonomie
Et est-ce que Christine Delphi, par exemple, pense cela?
Oui, absolument.
Oui, elle considère que ce sont des choses parallèles.
Oui. Ça, je me permets de répondre D'accord. en son nom. Mais je crois que... Et je me déclare féministe. Mais non, nous n'avons pas gagné la partie. En fait, depuis 1950, nous n'avons quasiment rien gagné. La révolution sociale ne suffira pas à résoudre nos problèmes. Ces phénomènes concernent un peu plus de la moitié de l'humanité. Je les tiens à présent pour essentiels et je m'étonne que l'exploitation de la femme soit si facilement acceptée.
Donc il faut mener les deux luttes ensemble, mais elles ne sont pas liées.
Elles ne sont pas d'abord liées. Il faut absolument que les femmes s'organisent, selon moi, s'organisent de manière autonome. Et alors les gens disent, mais c'est du séparatisme. Non, le séparatisme, c'est ce que subissent les femmes. Et elles y répondent par la non-mixité.
Je voulais dire un mot, mais vous en restez, je suis désolée. Je vous laisse conclure.
Oui, parce que si on veut rester fidèle à ce que dit Simone de Beauvoir dans l'entretien avec Alice Schweitzer, on voit que les deux sont liés. Il s'agit de revendications des femmes, revendications de classe.
Vous il
existe
pas la même
un
chose,
lien,
hein.
Oui, il existe un lien étroit et indissoluble entre les deux.
Alors, justement, vous venez de dire des choses opposées, c'est intéressant. Michel Caille a dit que ça n'est pas lié, c'est parallèle. Par les deux parallèles, il n'y a pas de lien. Et vous,
tout à fait.
Dites au
mais
contraire,
mais
vous André, que c'est lié.
Simone de Beauvoir veut surtout mettre l'accent sur le fait que... Par contre, il faut faire très attention pour ne pas subordonner la lutte de sexe aux luttes de classe. Par contre, ils sont liés, indissolublement liés.
Double journée, pauvre maman, c'est bien épuisant et c'est mal payé. Friedrich Engels l'avait dit dans La Famille aujourd'hui. L'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat. Il avait raison. Il avait raison, car à la maison, l'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat. C'est papa le chef, pauvre maman, le seigneur du fief. Le roi tout-puissant, Karl Marx l'avait bien écrit, la famille contient déjà, en petit mais oui, les antagonismes de l'État. Il avait raison, papa Karl Marx, il avait raison, car à la maison, les dégâts de la société et de l'État. Rien n'est décidé, rien n'est foutu. Si on n'en veut plus, il n'y a qu'à tout changer.
Cette chanson s'appelle « Papa Engels avait raison ». C'est la chanson entonnée par les personnages du film d'Agnès Varda de 1977. L'une chante, l'autre pas. On doit la mise en musique à François Wertheimer et l'interprétation au groupe Orchidée. Merci beaucoup, Mimose André et Michel Caille, pour vous être frottés à ce problème difficile du socialisme féministe ou du féminisme socialiste de Beauvoir, avec peut-être quelques contradictions au fil de son itinéraire. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il parle de la perte et de l'orientation. Ce matin, comment la pensée peut-elle nous orienter ?
Comment la pensée peut-elle nous orienter ? un texte est resté célèbre dans l'histoire de la philosophie, mais devrait l'être plus encore, car il est plus profond encore qu'on ne croit. C'est l'un des opuscules d'Emmanuel Kant, qu'Emmanuel Kant publia après ses grandes critiques, la critique de la raison pure ou la critique de la raison pratique. Il écrivit un certain nombre de petits textes qui doivent rester des jalons pour nous aujourd'hui. Ainsi, Michel Foucault commenta-t-il comme fondamentale la réponse de Kant à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Vassiste Aufklärung. Mais il y a un autre texte qui a marqué tous les étudiants et les lecteurs d'Emmanuel Kant. C'est un petit texte intitulé « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» Or, on peut prendre cette question, au fond, comme une question locale, comme si Kant voulait juste nous dire, au fond, comment s'orienter dans la pensée, comment s'orienter dans la connaissance, comment s'orienter dans la philosophie. Et en réalité, l'ambition de Kant est évidemment beaucoup plus grande. Ce n'est pas seulement s'orienter dans la pensée, comme si c'était là une forêt, un maquis parmi d'autres, s'orienter dans la complexité des pensées philosophiques, mais c'est au contraire s'orienter par la pensée, dans la vie en général, l'orientation étant la réponse au besoin le plus fondamental des êtres humains, celui de n'être pas perdu, celui de n'être pas égaré, comme le disait aussi le grand philosophe Moïse Maïmonide dans son célèbre guide des égarés. Répondre à l'égarement des êtres humains, ce besoin de repère, non seulement objectif mais subjectif et peut-être intersubjectif, dans le monde où nous vivons, voilà peut-être quelle est la tâche de la philosophie. La philosophie s'est donné toujours pour tâche non seulement d'orienter dans la pensée, mais d'orienter par la pensée les humains dans toutes les dimensions de leur vie. La pensée suffit-elle à répondre à tous nos égarements, à toutes nos pertes, au sentiment très profond parfois d'être perdu ? Cela n'est pas sûr, mais il est possible malgré tout qu'on ne puisse pas répondre à l'égarement sans l'orientation par la pensée, et donc en un sens, par la philosophie. Telle est la thèse, bien sûr, de Kant lui-même. Kant commence par une définition très précise et magistral de l'orientation. L'orientation au sens géographique, au sens cosmique en quelque sorte, avec une boussole. S'orienter, dit-il, d'une façon magistrale, s'orienter signifie au sens propre du mot, d'après une contrée du ciel donnée, par exemple le nord ou le sud, trouver les autres, notamment le levant. Et il y a en effet dans une boussole, du moment qu'elle montre le nord de façon magnétique, on peut s'orienter aussi à l'est, au sud et à l'ouest. S'orienter semble donc une tâche purement objective. Mais ce que montre Kant, c'est que même pour s'orienter dans la nuit, dans le monde, avec des étoiles dans la mer, il faut une capacité subjective. Il dit la capacité de distinguer sa droite et sa gauche. Oui, on ne s'oriente jamais seulement avec une boussole, mais d'abord avec son esprit. Il y a la capacité à distinguer la gauche et la droite, devant et derrière. Et d'une manière générale, il va partir de là, de cette thèse de la subjectivité de l'orientation, pour voir dans la raison, dans la capacité de penser elle-même, la seule réponse à la désorientation des humains. Et la raison, avec ses propres pathologies, doit rester pour lui la boussole de la pensée. Il faut alors la liberté de penser, dit-il, mais non pas de penser sans tout repère. Il défend à la fois les lumières, Vassiste Aufklärung, face à la tyrannie qui vient briser cet instrument de sauvegarde et d'orientation des humains, mais aussi pouvoir la développer avec des repères précis, critiquer ses égarements, c'est le sens de la critique de la raison pure. La liberté de penser et la critique de la raison, mais la pensée comme orientation dans la vie humaine, cela suffit-il ? Ce n'est pas sûr, mais que ce soit indispensable, c'est certain.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riad Kera et Nicolas Berger avec à la technique Paul Guigue. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Armance Bourquin, Chaïma Giboire et Nassim El Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.